Alors, en préparant cette série, je me suis inquiété pour ce soir. Pas à cause de la blessure. Hein. Plutôt, j'avais imaginé, en effet, la journée ensoleillée, la longue marche, le sport, les cris des enfants, pour ceux qui ne sont plus habitués, et votre fatigue ce soir. Alors, j'ai arrêté exprès ma lecture ce matin au verset 11 du livre d'Agé. Que pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans le livre d'Agé, un de ces petits prophètes de l'Ancien Testament que l'on n'ouvre pas souvent, parce que dans les versets 12 à 14, où je reprends ma lecture ce soir, il y a vraiment quelque chose d'enthousiasmant. Et je me suis dit qu'on avait vraiment besoin de quelque chose d'enthousiasmant pour commencer cette soirée et être sur de bons rails. Parce que ces versets sont certainement parmi les plus encourageants de ceux qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Alors, lisez avec moi, je vais juste lire en fait les versets 13 et 14 et on va vraiment se dire ce qu'il y a d'encourageant dans ces versets avant de reprendre notre réflexion sur les priorités ce soir. Agé, je lis au verset 13 donc du chapitre 1 du livre d'Agé. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous ». Dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Si vous êtes habitué de l'Ancien Testament, vous vous rendez compte de toute la portée de ces paroles. Un prophète a parlé et le peuple a obéi. C'est suffisamment rare pour le noter. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Moi, franchement, j'aurais aimé y être. Parler à ce peuple, adresser une parole d'encouragement, de repentance, de dire au peuple de considérer à nouveau leur voix et que ce peuple ait la crainte de Dieu. Qu'il n'écoute pas cette parole comme une parole rabâchée dont il n'a que faire, mais que cette parole rencontre réellement le cœur de ces hommes et de ces femmes et qu'ils se mettent à l'œuvre, qu'ils aillent sur le chantier, qu'ils prennent des grosses pierres, qu'ils en fabriquent un mur, qu'ils s'essayent même à des œuvres de maçonnerie, et pendant que certains étaient à l'extérieur, que d'autres soient à l'intérieur, et qu'ils soient en train de restaurer la maison de Dieu pour que le peuple puisse venir à la rencontre de Dieu, et ceux qui ne le connaissent pas encore puissent découvrir sa gloire. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas en pleine crise de mégalomanie, mais l'occasion était trop belle que de vous donner quelques nouvelles de notre bâtiment à Farmoutier, n'est-ce pas? Alors ça, c'est la vitrine de ce qu'on est en train de fabriquer. Un mur en pierre meulière. 60 mètres carrés de mur. Je ne sais pas qui a eu cette idée. Mais ça demande du temps. À peu près une journée pour faire les 13 mètres de longueur plus 80 cm de hauteur. Vous ferez le calcul pour voir combien il faut pour arriver jusqu'à 6 mètres de haut, ce qui est le défi. Et vous voyez que pour l'instant, on est à hauteur d'homme. Mais bon, les frères et sœurs travaillaient aujourd'hui. Il y a bon espoir en rentrant qu'un étage supplémentaire ait été fait. Merci de m'avoir invité. Le mur en pierre briard, hein, c'est vraiment pour rentrer dans l'architecture de l'abri et de voir cette église non pas comme un entrepôt, ce qu'il était à la base. Hein. C'est là où nous avons mis nos affaires quand nous sommes arrivés en Seine-et-Marne parce que notre logement n'était pas prêt dans cet ancien garage. Et vous voyez que les choses, enfin vous voyez pas, mais les choses ont bien changé en tout cas. Ça c'est le défi actuel. La salle de culte, 250 mètres carrés environ. Les autres lieux commencent à approcher des finitions. La salle de culte des enfants, le bureau du pasteur, le hall d'entrée. Mais là, on est encore aux prémices, même si des murs de placo commencent à faire jour. Notre sujet de prière, si vous voulez prier avec nous, c'est de trouver une équipe qui pourrait s'occuper du carrelage. 250 mètres carrés de carrelage. Ça encouragerait vraiment, l'Assemblée, que de trouver une équipe qui pourrait s'occuper de ça. Il y a des pistes, mais pour l'instant, à chaque fois, il y a quelque chose fait que ça ne va pas jusqu'au bout. Et on a vraiment besoin de prière et d'intercession pour trouver des équipes qui puissent nous aider. Et si vous voulez prier encore pour nous, eh bien, c'est de prier pour notre AG local. C'est pas moi, c'est la personne qui est à côté, là. C'est Clive, le directeur des travaux, celui qui porte sur ses épaules vraiment la cheville ouvrière de ce qu'il y a à faire, celui qui rappelle à l'ordre l'église, celui qui encourage, qui exhorte, qui se décourage quand il n'y a que deux personnes le samedi matin sur le chantier. Il a vraiment besoin de prière. C'est un homme vraiment dévoué, extraordinaire, mais il faut le porter dans la prière parce que il est fatigué aussi, il a une famille, il a un travail très prenant et il essaye de gérer ses priorités par rapport à ce qu'on partage ensemble pendant ce week-end. Mais voilà, si vous voulez prier pour l'église de Farmoutier, vous pouvez prier pour Clive. Et bien sûr, le but, ce n'est pas juste de fabriquer un bâtiment, mais c'est d'avoir un témoignage rayonnant des hommes et des femmes, pierres vivantes, et ça c'est un petit aperçu de l'église de Farmoutier lors du week-end d'église que nous avons vécu il y a quelques semaines. On n'était pas dans un cadre aussi beau, on était dans notre bâtiment et on était tous à la tâche, à la place d'aller faire une balade l'après-midi. On était avec les truelles et 50 personnes à essayer de trouver de quoi faire, même les moins manuels comme moi, de ne pas casser ce que les autres avaient fait. Mais voilà, et ce qui est formidable, eh bien, c'est que le Seigneur bénit déjà. On a eu 3 baptêmes la semaine dernière et vraiment des gens qui ne sont pas du tout issus de nos milieux chrétiens. 2 jeunes dont les parents ne viennent pas à l'église, et ils étaient là un peu pour une première fois lors de ce culte de baptême, et une maman qui a découvert la foi à travers le décès de sa belle-mère, qui elle était chrétienne, mais voilà, le fait que sa belle-mère soit décédée, ça l'a interpellée, elle a creusé dans la Bible, elle a tapé église sur internet et elle a atterri à l'église de Farmoutier, et 3 ans après elle a demandé le baptême. C'est vraiment voilà, la manière dont Dieu agit, bénit. Vous connaissez ça aussi à Mulhouse, mais voilà un petit partage de ce que nous vivons en ce moment à Farmoutier. Alors pour ceux qui nous rejoignent ce soir, je rappelle, en fait, je suis pasteur sur 2 églises. Donc ça, c'est une des 2 églises. Je vais parler un peu plus tard de l'autre dans le message, dans un autre contexte. Et la question qui se pose quand on construit un bâtiment et en rapport avec notre thème, c'est comment gérer les priorités de l'église dans une telle situation ? Faut-il consacrer toutes nos forces à élever ces murs de pierre ? Et on a besoin de temps pour pouvoir faire ça. Faut-il cesser tout témoignage ? Comment rendre participants aussi ceux qui ne sont pas forcément des maçons ? Vous avez vu que pour le week-end d'église, on a trouvé la solution en tout cas. Mais voilà, nous revoilà à notre thème, comment gérer nos priorités. Et vous rappelez ce matin ce slogan que nous avons médité, sans une sage gestion de nos priorités, fatalement ce qui est secondaire triomphe. Et vous rappelez cette histoire des cailloux qu'il faut mettre en premier dans le vase, sinon ils ne peuvent plus entrer. Une illustration que je trouve parlante et je vois qu'elle est communicative, puisque maintenant on parle en cailloux, gravier, sable, eau. Ceux qui n'étaient pas là ce matin, vous ferez raconter l'histoire, je pense que beaucoup auront plaisir à vous la partager. Ce soir, nous poursuivons la réflexion. Définir de bonnes priorités, être cohérent, c'est nécessaire. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. On a tous en tête, et plus particulièrement peut-être les parents plus âgés que moi dans la salle, s'être investi dans l'éducation de nos enfants, avoir mis une bonne priorité dans notre vase, un gros caillou, et voir notre ado débarquer un jour et nous envoyer à la figure tout ce que nous n'avons pas bien fait. Comment gérer nos priorités et comment apprendre à voir les choses peut-être d'une manière différente que ce qu'à première vue nous aurions tendance à faire. Et c'est un peu le thème de ce soir. Apprendre à voir les choses non pas comme moi je les verrais à première vue, mais comme Dieu voudrait que je les voie. parce que bien souvent nos cœurs se troublent, nos yeux ne voient pas assez loin, ils ne voient pas assez bien. Apprendre à voir ce qui compte vraiment. C'est le mot d'ordre de cette deuxième intervention et je vous invite à reprendre vos Bibles et nous allons lire cette fois-ci dans le chapitre 2 les versets 1 à 9 pour notre méditation de ce soir. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Jusque-là, la lecture de la parole pour ce soir. Après avoir fait le tri dans ses priorités, le peuple s'est donc remis à la tâche sur le chantier du temple. C'est ce par quoi nous avons commencé de nous réjouir. Et nous lisons ce soir à nouveau qu'un mois plus tard, Dieu s'adresse à nouveau à son peuple, car il semble qu'un nouvel obstacle se dresse devant lui. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça dans ce que nous avons lu. Est-ce que vous avez entendu le découragement poindre à nouveau le bout de son nez? Alors, ce n'est pas très facile à percevoir en premier parce que, en fait, on le trouve dans la bouche du prophète lui-même qui parle de la parole de Dieu. Mais on peut penser, en fait, que la prophétie reprend le murmure qui devait se propager depuis quelques jours parmi les ouvriers du chantier. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? Un mois que les travaux ont repris. Mais certains regardent tout cela avec un brin d'amertume. Le résultat n'est pas à la hauteur. On n'y arrivera jamais! Nous ne sommes qu'une poignée! Nous n'avons ni or, ni argent! Comment allons-nous rebâtir ce temple? Sale ambiance sur le chantier. Et il semble bien que les plus anciens ne jouaient pas vraiment le meilleur rôle. Hein. C'est certainement d'eux dont il est question quand il est dit « Avez-vous vu la gloire première de ce bâtiment ? Quelle pitoyable construction on est en train de faire hein. Rien à voir avec le temple de Salomon, ah, si vous aviez pu voir à quoi ça ressemblait. Rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Et c'est vrai, dans sa finition, dans sa splendeur, le second temple n'arrivait pas hein, à la cheville de celui que Salomon avait bâti. Alors si ce constat est exact, quel est le problème ? Pas de mal à dire la vérité. Eh bien, le problème, c'est que face aux résultats décevants que leurs yeux voyaient, Le peuple s'est appuyé uniquement sur ses impressions, sur son ressenti. Mais il semble bien que leurs impressions, leurs ressentis déformaient la réalité. Leur analyse les empêchait de voir ce que Dieu était en train d'accomplir. Et c'est le premier point pour ce soir. C'est folie que de nous confier en nos seules impressions, en notre seul ressenti. Les Israélites, avec la réaction qui était la leur, en fait, se trompaient d'enjeu. Au temps de Salomon, le but c'était d'obéir et de construire une maison qui resplendirait la gloire de Dieu. Au temps d'Agé, le but c'était d'obéir. Et d'obéir, tout simplement. Pas de faire quelque chose dont on pourrait être fier immédiatement, en disant à tout le monde « Venez voir ce qu'on est en train de faire, c'est formidable !» Simplement, se mettre à la tâche. Il y avait bien des raisons de se décourager, comme on l'a vu déjà ce matin. Mais Dieu avait demandé au peuple d'agir et de commencer. C'est souvent ce qui se passe avec Dieu, n'est-ce pas, hein ? Il nous demande de croire et d'agir premièrement, et c'est seulement ensuite qu'on découvre la bénédiction qui se cachait derrière. Peut-être que dans votre vie ce soir, il y a quelque chose que vous aimeriez commencer, quelque chose que vous aimeriez faire pour rendre gloire à Dieu, mais vous n'osez pas. Vous vous dites « ça ne marchera jamais, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas suffisamment capable, je ne suis pas assez doué ». C'est une des choses que nous avons ressenties à de nombreuses reprises avec Christelle au début de notre ministère dans l'autre église, à Esbly. Ne pas parvenir à faire que l'église, et plus particulièrement le culte du dimanche matin, ressemble à ce que nous, on imaginait que devrait ressembler un culte le dimanche matin. Nous trouver à devoir assumer des tâches où nous ne nous sentions pas forcément qualifiés. Christelle pourrait vous parler de ses luttes avec le ministère de l'enfance et de la louange. Moi, je pourrais vous parler de ces cultes où j'ai parfois dû assumer la présidence, la prédication, tout en m'assurant que la technique fonctionnait et aussi en faisant un petit peu la discipline avec les enfants qui n'avaient pas bien compris que DS, le jeu vidéo, là, et culte faisaient peut-être pas bon ménage. Et le dimanche soir, je dois dire qu'on était souvent découragés. Le sentiment de ne pas être à la hauteur. C'est rien de grave, hein. Je sais que plusieurs d'entre vous passent ou sont passés par des moments bien plus difficiles que ça, mais c'était ce que le Seigneur nous mettait devant nous. Et le lundi matin, je dois dire que je n'avais qu'une envie, c'était envoyer ma lettre de démission au conseil d'église. Heureusement que j'avais encore en tête le précieux conseil d'un de mes profs de l'Institut biblique. Rien à voir avec un livre biblique, mais il nous disait souvent, en tout cas je me rappelle de l'une ou l'autre fois, que l'objet de bureau le plus utile que nous aurions à acheter dans notre ministère, ce serait une grande corbeille. Une grande corbeille à papier. Pour pouvoir jeter le lundi la lettre de démission que nous aurions écrite le dimanche soir. Il avait vu juste. Le défi de tout service, de tout ministère, c'est de ne pas nous baser uniquement sur ce que nos yeux voient, nos impressions humaines, car bien souvent, nous serons tentés de baisser les bras. Peut-être que le témoignage de Frank Jenner peut nous aider à mieux nous en convaincre. Tout commence dans les années 50, en Angleterre, où un pasteur entend coup sur coup deux témoignages assez similaires de deux personnes qui ne se connaissaient pas entre elles. À chaque fois, l'histoire commençait ainsi. Je marchais le long des rues de George Street, c'est un centre d'affaires à Sydney, lorsqu'un étrange petit bonhomme avec des cheveux blancs s'avança en sortant d'un magasin, me tendant une brochure et me posant cette question. « Excusez-moi, mais est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé ?» Si vous mouriez ce soir, où iriez-vous ? Et pour ces deux personnes, cette rencontre fut à chaque fois le début d'un chemin de conversion. on s'y prendrait peut-être plus de la même manière aujourd'hui, hein, ça se passe dans les années 50. Mais quoique, peut-être que la méthode directe aurait encore du bon. Et quelques mois après, ce pasteur anglais part pour l'Australie, pour une tournée d'évangélisation. Et il avait toujours en tête cette curieuse coïncidence, hein, vécue quelques mois plus tôt, dans ces deux témoignages. Et alors que lors d'une de ses conférences, il faisait allusion à cela, qu'elle ne fut pas sa surprise de voir, à la fin de la conférence, plusieurs personnes s'approcher et de lui dire « Mais figurez-vous que moi aussi, j'ai rencontré la fameuse personne qui veut nous distribuer des tracts dans le quartier de George Street. » L'histoire se répéta ainsi à plusieurs reprises et au cours de la tournée du pasteur, il finit par se rendre à Sydney. Alors, vous imaginez bien que la première initiative qu'il entreprit en arrivant à Sydney, c'est de retrouver ce fameux bonhomme de George Street. Et ses contacts de Sydney le conduisirent jusqu'à la maison de Frank Jenner, l'homme aux cheveux blancs et à la fameuse question. Et en entendant le pasteur anglais lui raconter tout ce qu'il avait conduit jusque chez lui, Frank Jenner ne put retenir ses larmes. Il se mit à genoux et pria. « Seigneur, merci de me faire grâce ainsi. » Il expliqua alors au pasteur anglais que, depuis sa conversion, il avait pris l'engagement d'interpeller 10 personnes chaque jour sur le salut en Jésus-Christ. Mais c'était la première fois depuis 16 ans qu'il entendait que cela avait porté du fruit. Beaucoup des personnes qu'il avait rencontrées l'avaient envoyé promener. Quelques-unes l'avait écouté, l'air plus ou moins intéressé. Oui, il avait bien vu l'une ou l'autre fois une de ces personnes faire vœu de profession de foi, mais vous savez comment c'est, hein ? On ne sait jamais ce qui se passe après. Et pour la première fois, il entendait ce que ces personnes étaient devenues. Si Frank Jenner s'était contenté de ses seules impressions, de son seul ressenti, pas sûr qu'il l'aurait tenu ne serait-ce qu'une semaine, hein ? Il a dû attendre 16 ans pour recevoir un encouragement clair de Dieu qu'il était en train d'accomplir sa volonté. Je dois avouer que je n'ai pas la persévérance de Frank Jenner. Et, gloire soit rendue à Dieu, je n'ai pas eu besoin d'attendre 16 ans. C'est vrai que depuis plusieurs années, les choses se sont bien améliorées dans le culte à Esbly. Peut-être que le fait que je sois qu'à mi-temps aide un peu. Mais en fait, je crois que c'est surtout ma façon de lire les événements qui a changé. Je commence à apprendre à ne plus me fier en mes seules impressions. Quand quelque chose me déçoit profondément, j'ai appris à comprendre que Dieu ne voyait peut-être pas les choses de la même manière que moi. Et je cultive dans ces moments de déception ce petit jeu. J'aime m'amuser à discerner le petit moment où, au milieu même de cette déception, Dieu va m'encourager. « Nicolas, ne te fie pas à tes seules impressions. C'est moi qui suis en train d'agir. » Le dernier clin d'œil marquant a eu lieu il y a quelques semaines. Vous savez, quand il y a plusieurs clins d'œil, on peut parler de clin d'yeux, n'est-ce pas ? Et c'est un de ces fameux clins d'yeux que j'ai vécu. Comme je vous ai dit, les choses ont beaucoup évolué à Esbly, mais il arrive parfois que quelques situations cocasses se présentent à nouveau. Ce dimanche-là, nous n'avions pas de musiciens, et comme le point fort de l'assemblée, malgré tout, ressemble au pasteur, c'est-à-dire que ce n'est pas le chant, j'avais prévu des bandes audio sur mon ordinateur pour un peu soutenir le moment de chant. Malheureusement, la technique avait encore fait des siennes, la sono n'avait pas voulu se brancher sur mon ordinateur, et donc je jonglais ce dimanche-là avec mon micro entre l'ordinateur, qui n'était pas juste à côté de l'endroit où je parlais, pour le moment où la musique partait pour me tendre mon micro, j'assumais derrière la présidence et après la prédication. Le résultat ne fut vraiment pas prodigieux. Hein. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand, à la fin du culte, je vis deux personnes s'approcher pour me demander de devenir membre de l'Église. J'ai souri en mon cœur et je me suis dit, si après un culte comme celui-là, ces personnes ont envie de devenir membres de notre assemblée, au moins je suis sûr qu'elles ne viennent pas pour le spectacle que nous offrons. Elles ont compris que l'Église, c'est plus que cela. Elles ont découvert quelque chose de plus important, quelque chose qui compte vraiment. Ça sert à rien, ça ressemble à rien. Quel temple pitoyable nous sommes en train de construire. Ce sont des impressions, des sentiments qu'il nous faut apprendre à mettre de côté, notamment dans l'exercice d'un ministère, d'un service, pour parfois juste commencer et voir ce que Dieu va en faire. Car il plaît souvent à Dieu de ne pas nous montrer immédiatement les fruits de ce que nous entreprenons. Il est fou de vouloir nous confier en nos seules impressions ou en notre seul ressenti, en particulier dans la gestion de nos priorités. Et devant ce constat, vous voyez que j'aime souvent me poser des questions, eh bien je me pose la question, pourquoi Dieu agit-il ainsi avec nous ? Bon, on est d'accord, hein, Dieu n'a pas besoin de se justifier, mais j'ose m'interroger, pourquoi finalement ne pas faire un monde où l'on pourrait se fier en nos sentiments ? Les choses telles que je les verrais, telles que je les ressentirais, eh bien, elles seraient réellement comme cela. Alors, bien sûr, il y a plusieurs versets dans la parole qui nous aident à découvrir cela. « Je ne juge pas de la même manière que les hommes, dit l'Éternel. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Où il y a Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, sous-entendues comme le font les autres hommes, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, mais les invisibles, elles, sont éternelles. Autrement dit, dans notre nature propre, nous voulons que les choses bougent à court terme, alors que Dieu veut que nous fixions nos yeux sur ce qui dure éternellement. Toujours en lien avec la gestion de nos priorités. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Bien souvent, dans une situation donnée, nous ne regardons que le résultat, la performance, alors que Dieu s'intéresse à autre chose, la manière dont nous réagissons, nos attitudes, notre cœur. En fait, il y a un véritable décalage entre notre perception du monde et la manière dont Dieu la voit. Vous vous rappelez cette image du grand écart de ce matin ? Eh bien, c'est la même. C'est le même grand écart entre notre façon de voir les choses et la manière dont Dieu les voit. Nous nous attachons à ce que nous voyons, aux résultats, alors que l'essentiel se trouve en coulisses, là où ça ne se voit pas. Je crois que c'est souvent là la raison pour laquelle Dieu nous pousse dans nos retranchements. Il veut nous convaincre qu'il est totalement fou de vouloir marcher par la vue plutôt que par la foi. Qu'il est totalement fou de gérer nos priorités en fonction de ce que nous voyons plutôt qu'en ce que Dieu dit du monde dans lequel nous vivons. Et c'est pas peu dire qu'il s'attaque à un gros morceau dans nos vies. Hein. Parce que quand nous bâtissons, eh bien, on veut que ce que l'on bâtit ait fière allure, que ça ressemble à quelque chose. Quand nous nous donnons du mal, on veut que les autres le voient, qu'il y ait de la reconnaissance, que le résultat soit palpable. Si nous nous lançons dans un service, il faut que ce service porte du fruit. Et vous l'avez compris avec ce que nous avons vécu, je me prêche à moi-même. Nous nous devons d'être lucides car notre culture ambiante nous pousse toujours plus loin dans ce sens. Vous l'avez remarqué, nous sommes dans la culture de l'immédiateté. Nous avons un problème, Google est mon ami, la réponse est immédiate. J'ai besoin de l'aide de quelqu'un, mon portable s'en charge, et gare à celui qui n'est pas joignable 24 heures sur 24. Alors comprenez-moi bien, hein, je n'ai rien contre le progrès technologique. J'ai un téléphone portable, je profite de la performance d'Internet. C'est pas ça le problème. C'est la manière dont nous l'utilisons, et je crois que nous avons tous à progresser là-dedans. Mais c'est surtout la croyance que tous ces outils véhiculent. La culture de l'immédiateté nous promet qu'à chacun de nos problèmes, qu'à chacun de nos besoins, correspond une solution rapide et efficace. Le but du jeu, réduire le plus possible l'intervalle entre le besoin et le remède, afin de gommer totalement ce sentiment si désagréable, l'insatisfaction. Et à force de vivre dans cette culture de l'immédiateté, eh bien, nous finissons par la croire. Par croire que c'est possible. Croire qu'il est possible de gommer cet intervalle. Est-il utile de préciser que cette culture entre forcément en conflit avec ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu? Une vision du monde conduite par la culture de l'immédiateté nous amène à être toujours plus centrés sur nous-mêmes, sur nos besoins, sur nos craintes, sur nos peurs, et du coup à être de plus en plus éloignés de ce Dieu qui veut combler nos besoins. Alors tout cela peut paraître peut-être à certains bien philosophique, mais pourtant je crois que nous touchons du doigt le cœur qui doit nous aider à gérer nos priorités. Nous avons dit ce matin qu'une véritable réforme de notre emploi du temps, de notre budget, ne peut venir que d'une réforme de notre cœur. Or, notre cœur sera forcément conduit par une de ces deux visions du monde, soit par la vision de l'immédiateté. À tout problème, il y a une solution immédiate, soit la vision de la parole de Dieu. Une vision qui s'inscrit dans un laps de temps qui nous dépasse, puisqu'elle parle de l'éternité. Une vision donc que nos yeux ne peuvent percevoir que partiellement. Avec Dieu, nous devons apprendre que les choses ne sont pas toujours comme elles semblent être. On raconte l'histoire d'un homme qui un jour fut embauché sur un chantier. Sa mission, pousser un mur. L'homme, heureux de l'emploi qu'on lui proposait, s'attela à sa mission. Chaque jour, il était à l'heure sur le chantier et il commençait à pousser son mur. Le problème, quand on pousse un mur, c'est que ça ne bouge pas beaucoup. L'homme a persévéré quelques jours, quelques semaines, mais n'en tenant plus, il est allé voir au bout d'un moment son chef de chantier. Il a dit: écoutez, je crois que je ne suis pas l'homme de la situation. Je vous donne ma démission. Le chef de chantier le regarda et lui demanda: ai-je fait quelque chose qui vous déplaît? Non, non, ça ne vient pas de vous. J'ai toujours eu mon salaire à l'heure. Non, non, le problème n'est pas là, mais vous m'avez confié la mission de pousser ce mur et je dois avouer que ce mur n'a pas bougé depuis que je m'y suis attelé. Le chef de chantier regarda à nouveau l'homme. Il lui demanda: mais qui vous a dit que le mur devait bouger? L'homme lui dit: mais vous m'avez confié une mission. Si je agis, il doit bien se passer quelque chose. Mon travail doit bien produire du fruit. Oui, vous avez raison. Regardez vos bras. Regardez vos jambes maintenant. Vous n'imaginez même pas ce que l'on va pouvoir faire de tout cela. Avec Dieu, les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent être à première vue. Est-ce que les choses ne se passent pas souvent comme cela dans nos vies? Une situation que nous ne comprenons pas, mais où Dieu nous prépare pour autre chose, quelque chose qu'il utilisera pour sa gloire. Les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent être. Si c'est folie que de nous confier en nos sentiments, eh bien c'est sagesse que de regarder selon la perspective de Dieu, en fondant notre perception non pas selon notre vision du monde, mais selon ce que la parole en dit, selon les promesses de Dieu. Et c'est ce que souligne notre texte de ce soir. Aux Israélites découragés par le fruit de leur travail, l'Éternel des armées rappelle « L'argent et l'or ne m'appartiennent-ils pas ?» Sous-entendu, mais si je voulais que ce temple soit glorieux comme celui de Salomon, est-ce que je ne pourrais pas le faire ? À ces mêmes Israélites frustrés par leur situation, sans doute interrogatifs sur le silence de Dieu, l'Éternel des armées répond « Je suis moi-même avec vous, conformément à l'engagement que j'ai pris. Mon esprit est au milieu de vous. » C'est ça au verset 4 et au verset 5 de notre texte. Soit dit en passant, une belle promesse concernant l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament. Et puis, il y a ensuite cette autre promesse, tout à fait extraordinaire. Je remplirai de gloire ce temple. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai ma paix. Pourtant, le temple reconstruit par les Israélites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'arrivera jamais à la cheville de celui construit par Salomon. Alors c'est vrai, l'histoire de ce temple ne s'arrête pas là. En 19 avant Jésus-Christ, Hérode le Grand entreprit de grands travaux pour rénover ce temple et en faire quelque chose de beaucoup plus majestueux. Vous en avez un croquis là derrière. Ce furent des travaux d'embellissement, mais aussi d'extension, des travaux vraiment d'une grande ampleur, hein, qui durèrent plusieurs décennies. Il a fallu plus de 10 000 hommes et 10 ans rien que pour construire les fondations du temple. Et on connaît bien une de ces fondations. C'est le mur de Lamentation. Hein. Le mur de Lamentation aujourd'hui à Jérusalem, ça n'est pas un reste du temple, mais une des fondations du temple de Jérusalem. Est-ce que c'est de cela dont fait écho la prophétie d'Agée ? Ça pourrait être un accomplissement, mais probablement pas le point ultime que vise le prophète. Hérode n'était pas connu pour sa dévotion religieuse, mais plutôt pour sa tactique politique. Et s'il a construit le temple, c'était plutôt pour s'assurer son pouvoir. Alors quand est-ce que cette promesse a-t-elle été accomplie ? A-t-elle été accomplie ? Oui, pour celui qui ne se laisse pas uniquement guider par son ressenti, pour celui qui sait qu'avec Dieu les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent être, pour celui qui regarde les événements, les bâtiments, non pas avec une perspective humaine, mais avec celle de Dieu, la réponse est oui. Pourtant, il n'y a plus de temple aujourd'hui. Le temple reconstruit par les Israélites revenus d'exil a connu une gloire supérieure à celle de Salomon, car il a accueilli le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ, Dieu incarné. On a bien sûr en tête ces nombreuses scènes dans l'Évangile où Jésus enseigne dans le temple. On voit moins la paix quand il chasse les vendeurs dans le temple, mais l'accomplissement le plus extraordinaire a bien sûr lieu dans le corps même de Jésus-Christ. Et c'est Jésus lui-même hein, qui attire notre attention là-dessus. « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Vous savez d'ailleurs que c'est sur la base de ces paroles hein, qu'a commencé le procès de Jésus-Christ juste avant la croix. Mais bien sûr, Jésus ne parlait pas d'architecture. Et l'évangéliste Jean ne veut surtout pas que l'on passe à côté. Il précise au chapitre 2 de son évangile, dans les versets 19 à 22, Jésus parlait en fait du temple de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dites. Voilà comment Dieu a accompli cette paix promise au temps de ses ouvriers qui travaillaient à la sueur de leur front sans voir le résultat promis. Dieu a accompli sa promesse. Le nouveau temple, pourtant à l'allure bien modeste, dépasse en gloire celui de Salomon. Ce temple n'est pas rempli d'or et d'argent pour attirer nos yeux, mais il est visible désormais de partout à travers le monde, à travers la vie transformée d'hommes et de femmes, comme vous et moi. Avec Dieu, les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent être. Alors face à la lassitude, face au découragement, Agée invite ses contemporains à regarder l'histoire, non pas avec la vue humaine, mais par la lorgnette divine, selon sa perspective des choses. Eh les amis, contrairement à ce que vous pensez, ce que vous êtes en train de faire est hautement glorieux. Vous n'êtes pas simplement en train de mettre des pierres les unes sur les autres, vous êtes en train de préparer la restauration du royaume de Dieu sur terre. Ce que vous êtes en train de faire est glorieux et dépasse tout ce que vos yeux et vos sentiments peuvent vous donner à percevoir. Car ce que vous êtes en train de faire est éternel. Là, justement, où Dieu veut attirer notre attention. Ne nous arrêtons pas à ce que voient nos yeux, mais regardons plus loin. Apprenons à voir ce qui se cache derrière pour apprendre à faire ce qui compte vraiment. C'est ainsi que nous abandonnerons nos folles manières de vivre. C'est ainsi que nous marcherons vers une sage gestion de nos priorités. Amen. Alors on avait programmé un éventuel temps de questions. Je ne sais pas si vous aimeriez revenir sur l'un ou l'autre point développé, aussi bien ce matin que ce soir. La parole est à vous. Si vous n'avez pas de questions, moi j'en aurai une. Non, vous n'avez pas. Tout était clair.
Ah oui.
Bon. Alors moi j'ai une question, puisque vous réfléchissez à la place de l'Église. Ma question, c'est en quoi l'Église est-elle justement un solide rempart contre cette culture de l'immédiateté dont nous avons parlé ce soir ? Que vous avez déjà réfléchi à ça. En quoi l'Église est-elle un rempart contre la culture de l'immédiateté ? Alors, il y a bien sûr les chants à toi la gloire qu'on continue de chanter des décennies après avoir été écrits et qui nous rappellent que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Merci. Mais est-ce que vous pensez à d'autres choses ? On a besoin de ce mélange de générations pour justement ne pas foncer tête baissée dans des nouvelles formules, des nouvelles modes et nous concentrer justement sur la grosse pierre de l'Évangile. Est-ce que vous avez d'autres réflexions ? Vas-y, Marie.
Ben, on parle de choses que les gens ne parlent pas, tout ce qui est après la mort. Pour les gens, ça s'arrête à profiter de la vie maintenant, remplir ce qu'il faut, organiser comme il faut, mais tout ce qui se passe après, dans l'éternité, ça fait pas partie de... Si, c'est dans le ciel, mais bon, voilà,
c'est c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on prend le temps de parler de ces choses qui font pourtant des gros poids dans nos vies. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres... Oui.
Pour moi, on fait partie...
J'arrive à parler plus fort.
Pour moi, on est un petit point dans une ligne qui a commencé à Adam et Ève et qui finira dans l'éternité.
Ouais.
Et puis, il y a une deuxième chose qui m'a toujours frappée, c'est que la révélation est progressive.
Mmh. Chez nous aussi.
À Emmaüs, on nous dit, c'est comme quand on est en montagne, qu'on voit la première et au fur et à mesure qu'on avance, on voit les autres.
Mmh. Les autres sommets. Une belle allusion à ce que nous pouvons voir par la fenêtre, plus maintenant, mais on ne marchera plus de la même manière. Cette idée de voir les sommets des montagnes, justement, on a l'impression que le premier sommet, c'est l'accomplissement de Dieu, mais en fait, derrière, il y a quelque chose où Dieu pointe plus loin. C'est une manière de comprendre justement les prophéties dans la Bible qui s'accomplissent, un peu comme on l'a vu ce soir, de différentes manières dans l'histoire, avec un point d'orgue, Jésus-Christ. Jean-Marc ?
Je crois que l'Église et la communauté, les échanges qu'on a, nous aident justement à voir autre chose que ce qu'on voit dans le quotidien. C'est un genre de déménagement qu'on fait toutes les semaines, où on revient un peu dans un autre monde, et ça nous fait le plus grand bien, parce que ça nous aide à voir ce qui est important, et à voir pourquoi on perd du temps, entre guillemets, et on n'est pas dans des rendements immédiats.
Ouais.
Et l'Église nous aide à voir autrement l'emploi du temps.
Notre Dieu cherche à développer notre foi en lui. Tu disais l'immédiateté. Alors nous, on prie pour un certain nombre de personnes, un certain nombre de choses, et on ne voit rien venir. Après, on prie moins. Et puis il peut arriver aussi qu'on ne prie plus du tout. Et voilà que Dieu nous surprend. Tout à coup, il se passe quelque chose pour la personne dont on avait prié, et on s'est arrêté. Et alors, c'est une grosse leçon, parce qu'il nous montre que nous, on va continuer à lui faire confiance, que l'on voit ou que l'on ne voit pas. Et là, il nous teste, on est testé en permanence, si on est capable de continuer à prier sans voir. Et je crois que c'est une des grandes choses que l'on apprend dans l'Église. C'est vrai qu'on ne voit pas toujours, et pas tout de suite, peut-être jamais, certaines choses. Mais est-ce qu'on est capable de continuer à faire confiance autrement que par de bons cantiques, de prières, de déclarations X ou Y, la cité aussi. Alors, moi, c'est un peu ce que j'apprends.
Ouais.
En ce moment, depuis un moment.
Et ce que tu dis fait écho en moi à une photographie de... On connaît l'Église d'il y a 6 ans, et on revoit l'Église aujourd'hui, 2012. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2010, bon, Claire et Étienne peut-être, vous rappelez. Et en voyant Yann, aujourd'hui pour nous, qui ne l'avons pas vu depuis ces 6 dernières années, et en voyant voilà, le temps où on a prié, alors là on ne s'est pas arrêté de prier, mais c'était vraiment une photographie extraordinaire pour moi de le voir jouer au foot et me marquer des buts. C'est pas là où je me suis fait mal. Mais voilà, c'était vraiment... formidable pour nous de voir cette photographie et de voir, voilà, Dieu continue d'agir, et pendant ces 6 années, voilà ce qu'il a fait dans la vie de ce petit bonhomme, et c'était un bel encouragement pour moi cet après-midi en tout cas. S'il n'y a plus de réaction, est-ce que je peux demander à Étienne de prier pour nous pour conclure cette soirée ? Enfin, il y aura un chant encore après, mais en tout cas conclure ce moment.
Merci.